Radio Galère 88.4, et comme chaque semaine, une heure en Palestine pour partager ensemble les dernières informations. Donc voilà aujourd'hui comment ça va se dérouler. D'abord une première partie information, ensuite une pause musicale, et puis nous essaierons de joindre Iyad Alastal, le réalisateur de Gaza Balle aux Pieds, qui avec Naji, un footballeur amputé suite à une mine antipersonnelle, et Fouad Abouragno, que nous essaierons de joindre par téléphone, et nous terminerons par la situation sur Hébron, où les colons violent le droit international avec la bénédiction de l'armée israélienne, c'est-à-dire qu'en gros, au lieu de mettre l'armée israélienne sur le devant de la répression, eh bien, les autorités israéliennes confient maintenant aux colons le soin d'aller très loin dans les violations du droit et les atteintes à la dignité et à l'intégrité du peuple palestinien. Donc, commençons tout le monde par une information qui est tombée hier, c'est-à-dire l'ordre d'expulsion de Salah Hamouri. C'est plus exactement lundi 18 octobre que Salah Hamouri a reçu la notification du ministère dit de la justice et du procureur général de l'État israélien qui valide la demande de révocation de son titre de résident de Jérusalem. Cette révocation avait été demandée par Ayelet Shaked, ministre d'extrême droite de l'Intérieur en Israël, le 30 juin 2021, il devait être examiné par ses deux autres autorités en vue de son application. Il faut rappeler que les Palestiniens de Jérusalem ne bénéficient d'aucun autre titre de séjour que de celui de résident, c'est-à-dire qu'à tout moment, ce titre peut être révoqué. Ils sont sur leur terre, ils sont palestiniens, l'annexion de Jérusalem n'est reconnue que par une poignée d'États, mais cela permet quand même aux autorités israéliennes de décider qui a le droit de vivre à Jérusalem. Et ce sont des centaines et des centaines de Jérusalémites, de Palestiniens qui se voient dénier le droit de vivre dans leur ville. Et là, aujourd'hui, c'est le cas de Salah Hamouri. Alors, rappelons-le, Salah Hamouri est avocat. Il est le fils de Denise Hamouri, citoyenne française, mariée à un Palestinien et Salah bénéficie donc de la nationalité française et du titre de résident qui vient d'être révoqué. Pourtant, Salah vit et est né sur la terre de ses ancêtres palestiniens. Nous attendons de la France qu'elle fasse respecter le minimum de droits et qu'elle se souvienne qu'elle a, à un moment, voté une résolution 181 au Conseil de sécurité qui prévoyait la création de deux États et qui prévoyait en particulier un corpus separatum pour la ville de Jérusalem, et qu'aujourd'hui encore, la France ne reconnaît pas l'occupation de Jérusalem par l'État colonial israélien, et qu'il serait temps que nos autorités respectent la parole de la France. Donc j'en reviens au texte que nous avons reçu, qui est un texte d'un communiqué de presse du comité de soutien à Salah Hamouri. Depuis des années, les autorités israéliennes s'acharnent sur ce défenseur des droits humains et la révocation de sa carte de résidence aura pour conséquence pure et simple l'exil. Le 8 juillet 2021, le ministère français des Affaires étrangères déclarait, suite à la demande de révocation de sa carte d'identité par Ayelet Shaked, les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris, Jérusalem et Tel Aviv sont pleinement mobilisés pour que Salah Hamouri puisse faire valoir l'ensemble de ses droits et qu'il puisse mener à une vie normale à Jérusalem où il réside. La situation de Salah Hamouri est suivie attentivement et à haut niveau par les autorités françaises. Avec cette décision inique, après l'affaire Pegasus et au-delà de Salah Hamouri, vous savez ce que c'est l'affaire Pegasus, c'est ce logiciel israélien qui a été utilisé, paraît-il, par le Maroc. Mais on sait très bien que derrière le Maroc, ce sont les autorités israéliennes pour surveiller bon nombre de journalistes et d'hommes politiques français, dont le président de la République et dont de nombreux journalistes. Avec cette décision unique, après l'affaire Pegasus et au-delà de l'affaire Salah Hamouri, c'est la France qui prend une nouvelle claque de la part d'Israël. Une claque d'autant plus dure et inadmissible qu'elle touche aux droits de l'homme. La politique diplomatique française actuelle se montre incapable de faire respecter le droit et de se faire respecter. Nous ne nous résignons pas à cette situation. Nous appelons les autorités françaises à tirer toutes les conclusions de cette nouvelle décision et à en tirer toutes les conséquences. Nous appelons les citoyens et les citoyennes à se mobiliser dans leur diversité pour relever ce défi contre les droits de l'homme, pour manifester contre ce déni du droit d'un gouvernement israélien qui se croit, encouragé qu'il l'est, au-dessus de tout. Interpeller le ministère des Affaires étrangères, vos parlementaires, les associations de défense des droits humains pour permettre l'annulation de cette décision. C'est un communiqué de presse qui a été fait le 18 octobre à Paris. Et après cette information qui nous met la rage au cœur, la rage du fait que la famille de Salah Hamouri est maltraitée depuis des années et des années, que Salah a été accusé sans aucune preuve d'avoir voulu organiser l'assassinat d'un rabbin d'extrême droite sans aucune preuve ou en vertu de preuves secrètes qui n'ont jamais été communiquées ni à son avocat ni à son dossier. Enfin, une violation encore des droits humains comme les autorités israéliennes nous ont habitués, parce que c'est le sort aussi de centaines et de centaines de prisonniers palestiniens que d'être condamnés en vertu de preuves secrètes ou bien de ne pas être condamnés et d'être simplement maintenus en détention administrative comme plus de 500 d'entre eux le sont actuellement. Mais surtout parce que la famille de Salah, son épouse, a été interdite, enceinte, n'a pas eu le droit de retourner vivre en Palestine aux côtés de son mari, que depuis 5 ans, le petit garçon, sa maman, n'ont plus le droit, sont interdits d'entrer en Palestine, et que Salah, eh bien maintenant, n'a plus le droit de sortir, et s'il sort, il ne pourra plus revenir en attendant d'être expulsé. Donc, c'est la bassesse d'une autorité coloniale. Et la France laisse faire, laisse maltraiter ses ressortissants et laisse violer ses propres résolutions, les résolutions du droit international. Et heureusement, il y a des réactions d'humanité. Et en particulier, eh bien là, les travailleurs, ce sont plus de 300 salariés d'Amazon et 90 salariés de Google qui viennent de signer anonymement, par crainte de représailles que vous pouvez bien imaginer, qui viennent de signer un courrier, une lettre ouverte, appelant à mettre fin au projet Nimbus. On aime bien les projets. Il y avait Pegasus, maintenant voilà Nimbus qui arrive et qui dénonce donc, c'est pratiquement 400 salariés, qui dénoncent une tendance inquiétante à la militarisation de leur activité. Voilà ce qu'ils disent. Nous ne pouvons soutenir la décision de nos employeurs de fournir à l'armée et au gouvernement israélien une technologie utilisée pour nuire aux Palestiniens. Nous écrivons en tant qu'employés de Google et d'Amazon, venant de divers horizons et dotés de conscience. Nous croyons que la technologie que nous construisons devrait œuvrer à servir et à élever les gens partout et en particulier tous nos utilisateurs. En tant que travailleurs qui faisons marcher ces compagnies, nous avons l'obligation morale de nous exprimer contre les violations de ces valeurs fondamentales. Pour cette raison, nous sommes obligés d'appeler les dirigeants d'Amazon et de Google à se retirer du projet Nimbus et à couper tous leurs liens avec l'armée israélienne. Jusqu'à maintenant, plus de 90 employés de Google et plus de 300 d'Amazon ont signé cette lettre interne. Nous restons anonymes parce que nous craignons des représailles. Nous avons vu Google et Amazon poursuivre agressivement des contrats avec des institutions comme le département de la défense des États-Unis, le service de l'immigration et de l'application des règles douanières ou des services de police, d'État et locaux. Ces contrats font partie de la tendance inquiétante à la militarisation, au manque de transparence et à l'évitement de tout contrôle. Poursuivant cette tendance, nos employeurs ont signé un contrat appelé « Projet Nimbus » pour vendre une technologie dangereuse à l'armée et au gouvernement israélien. Ce contrat a été signé la semaine même pendant laquelle l'armée israélienne a attaqué les Palestiniens dans la bande de Gaza, tuant plus de 250 personnes, dont plus de 60 enfants. La technologie de nos compagnies se sont engagées à construire rend la discrimination systématique et les expulsions exécutées par l'armée et le gouvernement israélien encore plus cruelles et mortelles pour les Palestiniens. Le projet Nimbus, c'est un contrat de 1,2 milliard de dollars pour fournir des services de cloud à l'armée et au gouvernement israélien. Cette technologie permet une surveillance renforcée des Palestiniens et une collecte illégale de leurs données et facilite l'expansion de colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes. Nous ne pouvons pas détourner le regard alors que les produits que nous construisons sont utilisés pour dénier aux Palestiniens leurs droits fondamentaux, expulser les Palestiniens de leurs maisons et attaquer les Palestiniens dans la bande de Gaza. Des actions qui ont déclenché une enquête pour crimes de guerre de la part de la Cour pénale internationale. Nous imaginons un avenir dans lequel la technologie rapproche les gens et rend la vie meilleure pour tous. Pour construire cet avenir meilleur, les compagnies pour lesquelles nous travaillons doivent cesser de passer des contrats avec une quelconque organisation militarisée aux États-Unis et ailleurs. Nous condamnons la décision d'Amazon et de Google de signer le contrat du projet Nimbus avec l'armée et le gouvernement israélien. Et nous leur demandons de rejeter ce contrat et les futurs contrats qui nuiraient à nos utilisateurs. Nous appelons les techniciens du monde entier et la communauté internationale à nous rejoindre pour construire un monde dans lequel la technologie promeut la sécurité et la dignité pour tous. Voilà une bien belle lettre et nous comprenons d'autant plus leur inquiétude et leur besoin de rester anonymes. Surtout si l'on regarde par exemple ce qui se produit lorsque la compagnie Ben & Jerry, qui est une entreprise de fabrication de glace distribuée un peu partout dans le monde, et Ice Cream, qui a décidé il y a quelques mois de ne plus vendre ses produits dans les territoires palestiniens occupés. Rappelons pour commencer que Ben et Jerry, ce sont Ben Cohen et Jerry Greenfield, deux industriels juifs des États-Unis, et voilà ce qui leur arrive. Ben Cohen se sent tout à fait bien face à une accusation absurde d'antisémitisme, parce que nous en sommes là aujourd'hui, c'est-à-dire que lorsque l'on se lève pour dénoncer la politique coloniale et les crimes de l'apartheid israélien, eh bien tout de suite les attaques pour antisémitisme se lèvent et portées par évidemment le ministère de la propagande israélien mais tout leur soutien en Occident en particulier, eh bien les accusations d'antisémitisme tombent et elles tombent aujourd'hui tant sur les Israéliens que sur les Juifs du monde entier qui disent « ça suffit ». Ben Cohen dit qu'il se sent très à l'aise avec les accusations d'antisémitisme sur la décision de Ben et Jerry d'arrêter de vendre des glaces dans les territoires palestiniens occupés par Israël parce que l'accusation est absurde. Cohen et Jerry Greenfield, qui ont cofondé la société, ont été interviewés par Alexis McCammon d'Axios, un échange publié hier sur Axios HBO. McCammon, l'intervieweur, a demandé « Vous êtes tous les deux des hommes juifs. Qu'est-ce que cela fait personnellement d'être entouré par des accusations d'antisémitisme ?» Et Ben Cohen répond « Tout à fait bien, parce que c'est absurde. Ok, je vais dire quoi ? Je suis anti-juif ? Je veux dire « je suis juif ». Toute ma famille est juive. Mes amis sont juifs. La réponse est importante. » Parce que quiconque soutient les droits des Palestiniens de manière significative est dénoncé comme antisémite. Par exemple, lorsque la représentante démocrate Rachida Tlaib a déclaré qu'Israël pratiquait l'apartheid selon les rapports sur les droits de l'homme et que c'est pour cela qu'elle ne soutenait pas davantage l'aide militaire des États-Unis à l'État d'Israël, il y a deux semaines, un autre membre du Congrès, Ted Deutch, s'est levé à la Chambre pour la caractériser comme antisémite. Greenfield, de son côté, donc l'autre partenaire industriel de Ben Cohen, a répondu à la question sur l'antisémitisme. « Je comprends que les gens soient bouleversés. C'est un problème très émotionnel pour beaucoup de gens et je le comprends parfaitement. C'est un problème très douloureux pour beaucoup de gens. » Rappelons que Cohen et Greenfield ont vendu à la société Unilever en 2000 leur entreprise, mais sont toujours impliqués dans sa prise de décision. Et ce sont eux qui ont décidé de boycotter les territoires occupés à partir de l'année prochaine, comme cela a été annoncé en juillet et comme cela fait suite aux protestations de l'entreprise lors de l'attaque de Gaza en mai et à une longue campagne des progressistes des États-Unis pour amener l'entreprise à respecter ses principes de justice sociale en ce qui concerne les territoires palestiniens occupés. Le contre-coup de la décision a inclus de grandes organisations sionistes et des dirigeants israéliens qualifiant la décision d'antisémite. Par exemple, l'Arizona et le New Jersey se désengagent d'Unilever en vertu de leur loi d'anti-boycott. Le recul des politiciens démocrates tels que le maire de New York, Bill de Blasio, et un soutien étroit des organisations sionistes libérales pour le droit de Ben et Jerry de boycotter. C'est-à-dire que tout d'un seul coup, tout le monde s'est levé pour dénoncer la décision comme antisémite et les soutiens se sont faits extrêmement mesquins et étroits parce que tout le monde est effrayé par les pressions exercées par la propagande israélienne et par ses relais locaux. Cohen et Greenfield ont déclaré qu'ils soutenaient l'État d'Israël, mais pas son occupation. Cohen a dit sur Axios « Nous sommes toujours en faveur de la solution à deux États. La politique du gouvernement israélien a été d'approuver les implantations dans les territoires occupés, qui continuent de rendre de plus en plus difficile l'obtention d'une solution à deux États. C'est juste dire que nous ne voulons pas que nos glaces soient vendues dans les territoires palestiniens occupés. » Voilà, et lorsqu'on lui a demandé si la décision allait nuire à l'économie israélienne, il a répondu « Pas grand-chose, c'est une goutte d'eau dans la mer, ce n'est pas une position financière, c'est une position politique. Nous soutenons le droit d'Israël à exister, mais nous sommes contre une politique particulière d'occupation. » Griffin, pour sa part, a déclaré « Je pense que Ben & Jerry est qualifié de boycott d'Israël, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est en aucun cas un boycott d'Israël, puisque les glaces continueront à être vendues dans l'État d'Israël, qui lui-même est un État colonial, rappelons-le tout de même, mais elles ne seront plus vendues dans les territoires palestiniens occupés. » Voilà cette deuxième information. Et tout de suite, on enchaîne sur... Une autre information intéressante, c'est cette autrice irlandaise, Sally Rooney, qualifiée de petit prodige de la littérature, qui, elle, a décidé de ne pas signer un contrat avec l'éditeur israélien, Modan, une maison d'édition israélienne, qui ne se démarque pas du régime d'apartheid et de la colonisation. Sally Rooney a déjà publié deux romans qui ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires. Elle est la coqueluche littéraire, disons, au Royaume-Uni. Et elle dit sa fierté que ses deux premiers romans aient été traduits en hébreu et qu'elle serait aussi honorée que le troisième le soit, mais qu'elle ne veut pas que ce soit par une maison d'édition basée en Israël qui ne prend pas ses distances avec la politique israélienne. Les droits de traduction en hébreu restent disponibles dans le respect des lignes de la campagne BDS et il faut absolument saluer le courage de cette jeune autrice qui ne se cache pas sous des prétextes fallacieux et qui parle ouvertement de son soutien à la campagne BDS. Et il faut aussi rappeler que la répression exercée par les Britanniques sur les Irlandais qui voulaient leur indépendance est du même ordre que celle qui a été exercée sur le peuple palestinien, et là je remonte au moment du mandat britannique dans les années 30, ce qu'a subi le peuple irlandais est identique à ce qu'a subi le peuple palestinien. Et les Irlandais ne l'ont pas oublié. De leur côté, le PACBI, la direction palestinienne du boycott, de la campagne de boycott, a publié un communiqué qui dit « Les Palestiniens et Palestiniennes ont chaudement accueilli et acclamé la décision de l'auteur Sally Rooney de refuser un contrat avec Modan Publishing House, éditeur israélien, complice du régime d'apartheid israélien, de l'occupation et du colonialisme des colons, qui a tué en mai dernier plus de 240 Palestiniens. Rooney rejoint les innombrables auteurs internationaux qui soutiennent le boycott culturel institutionnel du secteur de l'édition complice d'Israël, juste comme les artistes progressistes alors ont soutenu le boycott de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous constatons avec fierté la solidarité historique exprimée par les personnalités culturelles irlandaises avec le combat palestinien pour la liberté, la justice et l'égalité. Plus de 1300 artistes irlandais ont maintenant signé la promesse de la campagne de solidarité pour la Palestine de maintenir le boycott culturel de l'apartheid israélien. Un nombre en croissance exponentielle d'artistes, incluant des artistes visuels et des musiciens, reconnaissant leur devoir moral profond de ne pas nuire au combat pour notre libération et de tenir l'État d'Israël responsable des violations des droits des Palestiniens palestiniennes. Il ne devrait y avoir aucun business habituel avec un État d'apartheid et des institutions qui en sont complices. Voilà, c'est ici un hommage à Sally Rooney et à son roman « Beautiful World, Where Are You ?» c'est-à-dire « Beau monde, joli monde, où es-tu ?» Et sans transition, une lettre ouverte aux dirigeants de l'Union africaine. Vous le savez, le président de l'Union africaine, non, vous ne savez peut-être pas, parce que c'est passé un peu inaperçu, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, un dirigeant tchadien qui a été premier ministre, qui a été ministre des Affaires étrangères au Tchad, petit retour en arrière, le Tchad, dès Hissène Habré, dans les années 80, a commencé à collaborer avec l'apartheid israélien, en particulier en prenant des instructeurs militaires. Et vous savez que Hissène Habré, récemment décédé, a par ailleurs été condamné pour crimes contre l'humanité, pour les tortures et les violations du droit exercées sur la population tchadienne. Eh bien, tout cela a été fait avec la formation des instructeurs militaires israéliens, et cela remonte aux années 80. Donc Moussa Faki Mahamat, lui, a été premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Idriss Déby, l'ancien chef d'état-major de Hissène Habré, qui, après un coup d'État, a été au pouvoir à partir de 1990 jusqu'à cette année, où il a été lui-même victime d'un complot qui est amené à son assassinat, ce président dictateur et violent dans la répression qu'il a exercée sur son peuple. Et rappelons-nous que notre président est allé s'incliner sur la dépouille de ce tyran, auquel a succédé son fils avec une violation complète de la constitution tchadienne, puisqu'il s'est autoproclamé président. Donc Moussa Faki, complètement en violation aussi des règles de l'Union africaine, a accepté les lettres de créance d'un représentant israélien pour l'introduire en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine. Et cela a provoqué une forte réaction de la part de plus grands pays, je parle en population, en respect aussi, en territoire de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, l'Algérie et bien d'autres, pour ne parler que des plus grands en superficie. Donc je reviens à ce texte adressé par le BNC, donc le Comité national du BDS, à l'Union africaine. Le Comité national palestinien de boycott des investissements et actions, la plus large coalition de la société civile palestinienne qui représente les Palestiniens des territoires occupés, exprime sa gratitude à tous les individus, organisations et États de toute l'Afrique qui se sont manifestés publiquement au cours des dernières semaines contre le fait qu'Israël ait le statut d'observateur à l'Union africaine. Nous faisons appel à ceux qui hésitent encore à prendre position pour qu'ils se joignent aux efforts croissants pour maintenir Israël hors de l'Union africaine. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons été choqués d'entendre que le 22 juillet, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat, a annoncé sans aucune consultation préalable des pays membres qu'il avait accepté les lettres de créance d'Israël en tant qu'État observateur de l'Union africaine. Nous avons hâte d'être à la réunion du Conseil exécutif, réunion qui s'est tenue la semaine dernière, confiant que les États membres corrigeront ce tort. Un petit rappel historique, et en particulier qu'il y a 20 ans, pendant la conférence mondiale de Durban contre le racisme, la société civile mondiale a dénoncé le régime d'Israël comme régime d'apartheid. Suite à cela, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale a régulièrement dénoncé la politique d'Israël de discrimination raciale et d'apartheid, et en 2012, il a exhorté Israël à interdire et à éradiquer les politiques et pratiques qui affectent gravement de façon disproportionnée la population palestinienne. Nous avons été reconnaissants à l'Union africaine d'avoir rejeté les précédentes demandes d'Israël d'être formellement associé à l'Union africaine sur la base du fait que ce serait une violation des principes de l'organisation. Nous venons rappeler à l'Union africaine et aux États membres que la politique israélienne et les crimes contre notre peuple n'ont pas changé mais s'aggravent de jour en jour. La politique raciste d'Israël vise aussi les migrants africains et les demandeurs d'asile. Ayelet Shaked, toujours la même, celle dont on parlait tout à l'heure, qui veut expulser Salah Hamouri. La ministre israélienne de l'Intérieur a annoncé dès sa prise de poste une série de mesures politiques racistes visant les droits des migrants africains et l'expulsion forcée de nombre d'entre eux. Elle a précédemment appelé les migrants une occupation africaine rampante, tandis qu'un de ses collègues, ministre du gouvernement, les avait à ce moment-là traités de cancer et qu'un autre ministre leur rappelait que ce pays appartient à l'homme blanc. Rappelant les mots de Nelson Mandela disant que nous ne savons que trop que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens, nous faisons appel à tous les États membres de l'Union africaine pour qu'ils rejettent la demande d'Israël d'avoir le statut d'observateur. Sans hésitation, à la prochaine réunion du Conseil exécutif sur la base de nos valeurs communes de liberté, de justice, d'égalité et d'autodétermination. Alors, ce conseil a eu lieu la semaine dernière. Et il y a eu, il faut le dire, des échanges extrêmement agités, houleux, qui ont conduit au report de la décision, report à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement qui aura lieu en 2022. La plupart des pays se sont opposés, ont été favorables, et il faut les citer. Le Rwanda, le Maroc, le Togo, le Gabon, le Cameroun et le Tchad, toutes des grandes démocraties. Djibouti, le Libéria, tout cela, le Sénégal et le Bénin, c'est-à-dire sur les 51 ou 52 États africains, vous le voyez, une poignée d'États, et les États les moins démocrates, qui se reconnaissent tout à fait dans l'apartheid israélien, puisqu'ils tiennent essentiellement grâce à la technologie de répression et de surveillance et aux conseillers techniques militaires qui leur permettent de continuer à opprimer leur peuple. Et au bout de tout cela, eh bien, on trouve quoi ? Eh bien, on trouve le président de la FIFA, Gianni Infantino. Vous savez, la FIFA impliquée avec des scandales de corruption et autres. Gianni Infantino, Fédération internationale de football, qui a proposé d'organiser une Coupe du Monde en 2030 en Israël et dans d'autres pays du Moyen-Orient, en particulier avec la grande démocratie des Émirats Arabes Unis. Voilà, une idée proposée lors de l'inauguration du centre Friedman pour la paix au Musée de la Tolérance à Jérusalem, un centre créé par l'ancien ambassadeur de l'administration Trump en Israël, David Friedman. Et pour la petite histoire, ce centre de la tolérance est construit sur un cimetière palestinien qui a été, dont on a expulsé les morts. Pour construire le centre de la tolérance, il fallait oser le faire. Pour justifier ce projet, le président de la Fédération internationale de football s'est appuyé sur les accords d'Abraham négociés par les États-Unis de Trump et signés par Israël pour faire la paix avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, encore des immenses démocraties. Voilà. Gianni Infantino s'est entretenu avec Ilie Tropper, ministre israélien des Sports et de la Culture, sur cette potentielle coopération entre la FIFA et Israël. L'objectif serait surtout de centraliser la Coupe du Monde autour des Émirats Arabes Unis, en incluant Israël, a annoncé le bureau du Premier ministre Naftali Bennett, encore un d'extrême droite. Mais cette Coupe du Monde est très courtisée. Autre problème auquel doit faire face Israël, eh bien, c'est la concurrence avec le Portugal et l'Espagne, qui sont déjà candidats pour 2030. La Chine, elle aussi, est un candidat possible. Les quatre pays, l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay et le Chili, une candidature commune pour représenter l'Amérique du Sud, tout comme les quatre associations britanniques en collaboration avec l'Irlande, sans oublier les quatre. Alors je cite ce qui est marqué entre griffes, entre guillemets, les quatre orthodoxes composés de la Bulgarie, la Roumanie, la Serbie et la Grèce. Le tournoi doit être attribué en 2024 et ne pas oublier toutes les polémiques qu'il y a autour de la Coupe du Monde au Qatar et autour du bilan des catastrophiques des droits humains et des milliers ou des centaines des milliers de morts liés à la construction de ce stade. Voilà, il est 28, c'est-à-dire nous sommes à la moitié de l'émission, nous allons faire une pause musicale et nous allons essayer de joindre notre interlocuteur Iyad El Assal pour une petite interview. Thank you.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra. Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoigne de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire. Petit, ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Voilà, je pense, voilà, nous sommes toujours sur Radio Galère, évidemment, sur 88.4. Et je pense que nous avons Aline Iadalastal, le réalisateur de Gaza Paloupier. Allô ?
Bonjour, madame.
Bonjour, bonjour Iad. Nous sommes très heureux de vous avoir sur Radio Galère. Alors, première chose...
On a envie d'être vraiment en ligne avec vous.
Merci, merci. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous parler de ces deux films, le premier sur Razan et le second, évidemment, Gaza balle au pied, qui a été présenté à Marseille il y a une dizaine de jours.
Okay, merci. Et en fait, moi, je suis Iad Alastal, francophone de Gaza et réalisateur de films documentaires. J'ai réalisé en 2018 un documentaire autour de la jeune secouriste palestinienne Razan Annajjar, infirmière qui était assassinée à la marche de retour. Elle était avec sa veste comme infirmière, mais malheureusement elle était ciblée par les balles de l'armée israélienne ils ont fini sa vie. Donc voilà, j'ai réalisé ce documentaire en hommage à cette jeune fille palestinienne. Et ensuite, on a organisé un tournée en France pour provoquer, pour témoigner avec ses parents la violation des droits de l'homme au propos de envers vraiment les manifestants palestiniens et surtout les personnes qui travaillent dans le domaine de santé, des secouristes, des ambulanciers et les journalistes palestiniens. Donc on a organisé cette tournée partout en France pour comme je viens de le dire pour témoigner. Et c'était vraiment une tournée très très importante pour vraiment parler de violation des droits de l'homme en Palestine et les crimes commis par l'armée israélienne. Cette année, en 2021, j'ai réalisé un documentaire Gaza, balle au pied. C'était à l'occasion de l'initiative qui était lancée par Collectif Matic Palestine, qui a fait venir l'équipe des footballeurs amputés de Gaza pour jouer contre l'équipe de France. J'étais à l'époque l'accompagnateur de l'équipe, le coordinateur de projet, et à la fois donc j'étais le réalisateur. J'ai fait double métier à l'époque. J'ai filmé des footballeurs de Gaza. Je suis 4 footballeurs à Gaza pendant leur vie quotidienne, dans leur famille, dans leur vie quotidienne à Gaza. Après ça, j'ai filmé leur séjour en France où ils ont rencontré beaucoup de sympathisants de la cause palestinienne, beaucoup de solidaires avec la cause palestinienne. Donc la tournée où les rencontres sportives s'est déroulée dans le sud de la France, c'était en Corse, à Martigues et Annecy et Gardin. À la suite de notre retour à Gaza, j'ai commencé le montage de film et là, cette année, on a commencé une tournée où on fait vraiment pratiquement le tour de France avec le film. Avec moi, les deux personnes de Gaza, le président de l'association des footballeurs amputés de Gaza et un footballeur amputé qui est venu avec nous en 2019, qui a joué contre l'équipe de France. On est presque aujourd'hui à la fin de la tournée. On est aujourd'hui à Angers pour présenter le film. On a fait vraiment jusqu'à maintenant au moins 28 villes où on a fait des rencontres avec le public. C'était vraiment très très varié entre les déliciens, c'est-à-dire dans des lycées, des militants, dans des centres de l'handicap, et paralysés. Et donc voilà, c'était vraiment pour provoquer une deuxième fois la violation des droits de l'homme, parce que ces footballeurs amputés, c'était la conséquence des agressions israéliennes et surtout la grande marche de retour où l'armée israélienne elle a ciblé volontairement des jeunes pacifiques palestiniens qui manifestaient pour réclamer leur droit de retour. Donc ils sont devenus malheureusement aujourd'hui handicapés par les balles qu'il a tirées sur leurs genoux, sur leurs jambes, pour les rendre handicapés. Et l'objectif de la tournée, c'est pour témoigner cette question et pour montrer ou pour parler aussi du sujet de l'handisport à Gaza. Donc on a fait un peu film, un peu qui touche un peu le côté militant ou le côté varié dans la société française ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait un film un peu sportif où on parle vraiment de football pour toucher plus de gens et pour leur sensibiliser de la cause palestinienne et de la question de l'handisport à Gaza.
Merci pour ces précisions. Je voudrais aussi que vous nous parliez de ces petits documentaires que vous faites de quelques minutes qui s'appelle Gaza Stories.
En fait, je fais pas mal de choses pour vraiment montrer la cause palestinienne. Donc en 2019, j'ai lancé un projet qui s'appelle Gaza Stories. Donc Gaza Stories, vraiment, c'est des petits formats de 3 à 5 minutes au maximum où on montre vraiment la vie autrement ici. C'est-à-dire le contexte ou le point de vue qui est connu sur la Palestine et surtout Gaza. Surtout Gaza comme un champ de ruines, comme un lieu de violence, comme une région bombardée toujours par l'armée israélienne. Ok, c'est vraiment une réalité qu'on ne peut pas l'ignorer, mais en fait il y a le côté de la vie quotidienne. Malheureusement les médias, les journaux occidentale ne montre pas vraiment ce qui se passe autour vraiment de la vie quotidienne. Donc c'était vraiment mon engagement pour parler de Gaza autrement, pour montrer vraiment l'image brillante de Gaza. Donc je tourne des vidéos qui parlent de la vie quotidienne à Gaza, où je montre le rôle de la jeunesse, la créativité, les femmes, les artistes, le sport, etc. Donc l'éducation par exemple, la culture, le patrimoine. Donc voilà. Et jusqu'à maintenant, donc ce projet il a vu le jour en 2019, au mois de mars. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment je lui souhaite une longue vie, parce que à chaque fois que je montre ces vidéos ici en France, donc vraiment les gens, je reçois toujours vraiment de bons retours de côté des gens qui regardent ces vidéos. Donc chaque vendredi je sors une vidéo sur les réseaux sociaux et sur le site de la AFIAS, Association Française de la Solidarité, sur le site de l'ONG Française pour la Paix, sur le site de BDS en France. Donc ces vidéos ce sont vraiment des petits formats qui sont magnifiques, qui peuvent changer le regard auprès vraiment de la situation, qui peuvent vraiment clarifier et montrer la vie quotidienne à Gaza. Donc c'est traduit aussi en français gratuit, et c'est aussi traduit en italien. Donc il ne reste vraiment que à chercher et à taper sur les réseaux sociaux Gaza Stories. Vous allez vraiment trouver des choses qui vont vraiment vous étonner, qui à la fois ils vont aussi vous mettre vraiment très très proche de Gaza, parce que comme vous le savez, Gaza est marqué par le blocus israélien. Donc nous, c'est très difficile pour nous de sortir de Gaza pour vous témoigner sur ce qui se passe, et vous aussi vous pouvez pas venir à Gaza pour voir ce qui se passe là-bas, parce que l'armée israélienne elle interdit aussi les solidaires de la cause palestinienne d'accès à Gaza. Donc notre seul moyen vraiment la communication aujourd'hui à travers heureusement nos réseaux sociaux, où on peut s'exprimer librement. Donc vous pouvez trouver tous ces formats sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement c'est ça.
Merci Iyad. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir à Marseille. Et nous remercions aussi les élus qui ont assisté à cet après-midi où on a présenté Gaza Balle au pied, ainsi qu'une sélection de divers extraits de Gaza Stories. Les élus, alors je ne vais pas tous les citer, mais ce qui nous a fait extrêmement plaisir, c'était qu'il y avait toutes les tendances politique, on va dire, de la représentation marseillaise, que ce soit dans la majorité ou dans la minorité à la mairie. Et on ne va pas les citer, mais nous savons qu'ils ont été là. Et nous allons, comme nous nous sommes engagés ce jour-là, toutes les associations de Marseille réunies au sein du collectif Palestine en résistance, nous allons agir en direction à la fois des artistes, à la fois du monde de la culture, du sport, du handisport, aussi en prenant en compte l'environnement et les luttes féministes. Nous allons agir pour rapprocher Marseille et Gaza, et à vous aider Iyad, mais aussi Naji, le footballeur, et puis Fouad Abouralioun, à développer ces liens entre Marseille et Gaza, parce que Gaza, tout comme Alger, tout comme Tunis et Beyrouth, sont aussi nos villes sœurs. Et je n'oublie pas non plus Haïfa, qui est une ville où, avec laquelle notre ville est jumelée, et où il y a une importante population palestinienne qui, depuis le jumelage en 1958, a été totalement ignorée par les diverses municipalités marseillaises, différentes directions marseillaises. Et nous allons essayer de réparer tout ça avec la municipalité actuelle, développer les liens avec la population de Haïfa et rapprocher Marseille et la bande de Gaza, les associations, de manière à ce que notre ville soit, comme elle en a l'ambition, la capitale de la paix et de la liberté et de la solidarité en Méditerranée. Et cela ne pourra pas se faire sans la bande de Gaza. Merci Iyad El Astal. Salué de notre part, de la part de Marseille, Fouad Abouralioun et Naji. Et puis on vous dit à très bientôt, certainement à Marseille.
Merci beaucoup pour vous, pour votre émission, et merci vraiment pour la projection que vous avez organisée à Marseille. C'était vraiment une projection, l'une des projections plus remarquable pour moi. Donc c'était, j'étais vraiment ravi de présenter mon film chez vous. Et donc un autre prochain film, un autre prochain projet de partenariat avec Marseille, la capitale de la paix et de la solidarité. Merci beaucoup.
Merci Yad et à bientôt. On continue alors tout de suite avec un morceau de musique. Eh bien, c'est un jeune rappeur de Gaza, pour vous montrer de quoi ils sont capables aussi à Gaza. Un petit ado qui rappe, en référence aussi avec Eminem. C'est parti.
Could eat, living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same. Denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land. Won't let them occupy my mind. Hoping it can make a difference. Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted. I'm forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return. So that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are light in the sky. We're trying to celebrate and aid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made.
Voilà, il a 13 ans, il s'appelle MC Abdul et on espère l'avoir bientôt un jour à Marseille pour venir rapper avec nos rappeurs marseillais et je pense en particulier à notre ami Soli mais aussi à tous les autres qui, j'en suis certaine, seront enchantés d'accueillir cette petite pépite gazaoui, MC Abdul. Alors, allez voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, vous le trouverez, MC Abdul, et vous trouverez aussi sur la chaîne Gaza Stories, avec IES à la fin, STORIES, Gaza Stories. Vous trouverez aussi ces petites vidéos qui sont elles aussi des pépites, où vous découvrirez le conteur palestinien, les montreurs de marionnettes, les petites filles qui dansent, puis... Il y a tellement de choses à voir, les chanteurs, les chanteuses, les danseurs, les rappeurs, les patineurs, ceux qui font du parcours dans les rues de Gaza, les footballeurs amputés. Vous allez trouver toute cette richesse culturelle et humaine que l'occupation israélienne n'arrive pas à briser, soit par les bombardements, soit par le blocus, soit par la pénurie en eau. Ils résistent, ils vivent, ils font de la musique, ils dansent, ils chantent. Et nous sommes là aussi pour faire entendre leur voix. Voilà, on va continuer et passer de Gaza à Hébron, un autre point chaud de la Palestine occupée. Nous allons occuper ces dernières minutes. On n'aura pas le temps de tout voir, mais on y reviendra dans une prochaine émission sur ce qui se passe à Hébron où l'armée et le gouvernement israélien utilisent les colons pour faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est-à-dire attaquer tous les jours, les Palestiniens, qu'ils soient dans leur maison, à Hébron, qu'ils soient dans leur champ, qu'ils soient en train de cueillir les olives, qu'ils soient en train d'aller à l'école. Et là, juste un reportage de l'organisation israélienne B'Tselem, qui raconte comment un gamin a été torturé par les colons. Les colons ont roulé vers moi et m'ont heurté avec leur voiture. Et je suis tombée par terre. La voiture s'est arrêtée et 4 colons sont sortis. Certains tenaient des bâtons. Ils m'ont attaqué et m'ont frappé à l'épaule, aux jambes et au dos, a raconté Zaïbdi à B'Tselem. Selon lui, les colons lui ont alors attaché les mains et les pieds et l'ont enchaîné au capot de leur voiture avant de le conduire à Omesh, une colonie. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont appuyé sur les freins, les faisant tomber Zaïbdi au sol. Certains des colons qui étaient là ont couru vers moi et ont commencé à me donner des coups de pied. Un colon s'est approché de moi et m'a aspergé de poivre au visage. Cela faisait mal et piquait, et j'ai crié de douleur. Ensuite, l'un des colons a apporté un morceau de tissu et l'a attaché sur mes yeux. L'enfant a déclaré avoir entendu les colons l'insulter en arabe et en hébreu. Et bien qu'il ait les yeux bandés, il a senti que certains colons lui crachaient dessus. Ensuite, ils ont continué à donner des coups de pied à un enfant terrifié avant de le pendre à un arbre, le blessant et lui brûlant les pieds. Je suis restée suspendue comme ça environ 5 minutes, les yeux fermés. Je les ai sentis couper et frotter la peau de mon pied gauche avec un objet pointu. J'avais tellement mal, je ne pouvais pas le prendre. Soudain, j'ai ressenti une forte brûlure sur mon pied droit causée par un briquet ou quelque chose de similaire. Cela a duré quelques secondes. J'ai crié et pleuré de douleur et de peur. C'est alors qu'ils m'ont descendu de l'arbre, a déclaré Zbeidi à Bethsalem. Alors, les colons l'ont frappé à la tête avec un bâton, lui faisant perdre connaissance. Selon Bethsalem, peu de temps après, les colons ont été approchés par un groupe de soldats israéliens dans une jeep militaire. Les colons ont alors remis l'enfant aux soldats, alléguant qu'il leur avait jeté des pierres. Lorsqu'il a repris connaissance, il est allongé sur le sol de la jeep militaire. À ce moment-là, il a déclaré qu'un des soldats l'avait menacé, disant que s'il lançait des pierres, les colons viendraient chez lui et l'arrêteraient. Ensuite, les soldats lui ont remis son téléphone, un homme qui parlait arabe, prétendument un officier de renseignement israélien, selon l'oncle de Zbeidi, a également menacé l'enfant, disant qu'il savait tout de moi et que si quelqu'un jetait des pierres sur les colons, il reviendrait chez moi pour m'arrêter. Peu de temps après, l'oncle et le frère de Zbeidi sont venus le chercher, l'ont mis dans une ambulance palestinienne et l'ont emmené dans un hôpital de Jenin. J'ai été amenée aux urgences où j'ai été examinée et radiographiée. Ils ont trouvé des contusions et des blessures sur mon épaule, mon dos et mes jambes, ainsi que des blessures et des brûlures sur mes pieds. Je suis restée là-bas jusqu'au lendemain après-midi, puis j'ai été libérée de l'hôpital, a déclaré l'enfant, ajoutant après avoir été libérée, son corps était douloureux et qu'il ne pouvait pas marcher à cause des coupures et des brûlures aux pieds. Selon Bethsalem, alors que la colonie de Homesh a été évacuée en 2005, elle a maintenu une présence quasi constante de colons dans la région depuis. Les forces de sécurité ne permettant de rester et d'attaquer les Palestiniens, leur permettant d'attaquer et de rester là. Bethsalem a noté que l'attaque contre Zbeidi était la 10e attaque de colons contre des Palestiniens près de la colonie, qui a été attaque documentée par le groupe depuis le début de 2020. Cette affaire peut être exceptionnellement cruelle, mais la violence des colons contre les Palestiniens, souvent avec la participation de soldats, fait depuis longtemps partie de la politique israélienne en Cisjordanie et fait partie intégrante de la routine de l'occupation, a déclaré Bethsalem lors d'un rapport. Et pour terminer rapidement, un article d'un journal en ligne israélien qui reprend la déclaration de Sneer Klein, qui a servi comme officier dans la brigade de parachutistes de Tzahal. Il est aujourd'hui diplômé en droit et il travaille pour devenir avocat. Et il témoigne ainsi. « C'est en avril 2012 que pour la première fois je suis arrivé à Hébron. Je venais de terminer l'entraînement au combat et j'ai été envoyé pour renforcer les forces dans la colonie là-bas. J'ai été posté sur le chemin des adorateurs qui relie la caverne des patriarches à la colonie de Kiryat Arba et j'ai passé la plupart de mon temps à m'ennuyer. » Un jour, j'ai vu un groupe de jeunes juifs chahuter des Palestiniens, les taquiner. Cela se transformait rapidement en bagarre totale. La seule raison à cela que je pouvais voir était qu'ils étaient Palestiniens. Mon sergent et moi, nous sommes rapidement déplacés pour l'interrompre. Nous avons retenu les Palestiniens jusqu'à ce qu'une voiture de commandement vienne les arrêter. Les juifs ont été relâchés sans aucune pénalité, continuant jusqu'au caveau des patriarches pour les prières du matin. Je n'étais pas un mauvais soldat, je n'étais pas non plus un lâche ou quelqu'un qui surprend facilement. Personne ne m'a préparé à ce genre de situation. Au contraire, on m'a dit que ma mission était de protéger les colons juifs de Kiryat Arba et d'Hébron. Nous avons fait beaucoup pour atteindre cet objectif, y compris la mise en quarantaine de rues et de quartiers. Lors d'un débat houleux à la Knesset sur la violence des colons, un représentant du ministère de la Justice a déclaré que les soldats ont le pouvoir d'arrêter les colons. Bien que cela soit agréable à entendre, j'espère que ce message sera transmis à l'armée israélienne, car ils n'en ont certainement pas conscience. Je suis l'un des 100 soldats de l'armée israélienne qui ont servi en Cisjordanie et qui ont envoyé une lettre au ministère de la Défense Benny Gantz et au ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev la semaine dernière, appelant l'État à mettre fin à la montée de la violence des colons contre les Palestiniens, qui va devenir complètement hors de contrôle. Bien que cela soit vrai depuis plusieurs années, cela s'est aggravé au cours des derniers mois après la mort de la jeune colon Ahuvia Sandak qui a été tuée dans un accident de voiture alors qu'elle tentait d'échapper aux forces de police israéliennes. Presque chaque semaine, nous voyons les mêmes images de colons vêtus de blanc et se couvrant le visage, lançant des pierres sur les Palestiniens à divers endroits en Cisjordanie, alors qu'un soldat de l'armée israélienne se tient à l'arrière-plan, l'air ennuyé et déconnecté des événements qui l'entourent. En effet, bon nombre de ces incidents violents se produisent sous le nez des troupes de l'armée israélienne. Au mieux, ils y mettent fin et chassent les colons sans aucune sanction. Dans le pire des cas, les soldats prennent même une part active aux attaques. Dans certains cas, le problème est le manque de présence militaire. Tant que l'armée israélienne ne comprendra pas son rôle dans la protection des Palestiniens, de leur dignité et de leurs biens, rien ne changera. Mais personne ne dit aux colons, aux soldats, qu'ils ont le devoir d'arrêter la violence des colons. Il est difficile d'expliquer cela à quelqu'un qui n'a pas été là. Vous êtes déployés dans les territoires et on vous dit que le but est de protéger les colons. Ce sont vos gens, ils parlent votre langue. Et parfois, ils vous apportent une pizza ou un café et parfois, vous les connaissez simplement parce que vous êtes là depuis assez longtemps. Puis ces mêmes personnes ou leurs enfants sortent armés et masqués. Vous ne pouvez pas les arrêter, surtout quand personne ne vous a expliqué qu'il est de votre pouvoir de le faire. Je ne pense pas que l'armée doive rester en Cisjordanie, car je la considère comme fondamentalement immorale. Mais la prévention de la violence est l'une des rares actions de cette armée qui peut être justifiée. Pourtant, cela ne se produit pas sur le terrain. Sur le terrain, l'armée israélienne sait très bien comment arrêter la violence palestinienne, mais est élue de toute action pour arrêter la violence des colons juifs. Les soldats de l'armée israélienne ne défendent pas seulement les criminels, mais les aident activement. Une autre caractéristique de l'apartheid qu'Israël a créé dans les territoires occupés. Eh bien voilà, ceci est un témoignage d'un soldat, d'un officier de l'armée israélienne, d'un officier d'une armée d'élite, d'une troupe d'élite, et qui commence avec Breaking the Silence, cette association de soldats, à dénoncer eh bien, tout ce qui se passe en Cisjordanie dont ils ont été témoins, ou dans la bande de Gaza, dont ils ont été témoins. Et vous pouvez vous en douter, eux aussi sont traités d'ennemis de l'intérieur, sont traités d'antisémites, sont traités d'ennemis de l'État d'Israël, alors que tout ce qu'ils voudraient, c'est de pouvoir vivre en paix, à côté des Palestiniens, mais pas sur le dos des Palestiniens ou en marchant sur leur tête. Voilà, il est 18h57. Je tiens à remercier notre ami Sidi qui fait la technique. Je tiens à vous remercier, vous qui êtes à l'écoute de Radio Galère sur 88.4. Et je vous souhaite une très bonne semaine pour vous retrouver la semaine prochaine sur Une heure en Palestine. À bientôt et nous continuons à œuvrer pour rapprocher la ville de Marseille avec la bande de Gaza. À bientôt.